Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18 heures à CJMD 96.9 L'Alternative Radio.
96.9, l'alternative radiophonique.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin,
courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va top shape pour la fin de notre saison, Jeff. Toi?
Écoute, top shape. Je suis vraiment content. On a encore une énergie de feu en studio. Une des choses qui est vraiment importante pour l'entrepreneuriat, puis aussi en immobilier, c'est de comprendre nos finances. Puis tu sais, on parle souvent de CFO, puis on sait pas trop c'est qu'est-ce que ça veut dire CFO.
Ça sonne bien.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je préfère que je le dise?
Chief Financial Officer.
Yes, sir, nice. Miller.
Deux points.
Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une des personnes qui va être là pour nous aider à chapeauter puis à prendre des stratégies financières sur le développement de notre business. Puis, tu sais, on vient toujours dire, ah, ben, les gens qui ont fait une faillite, les gens qui ont eu une problématique financière, c'est des gens qui ont eu une mauvaise gestion tout court. C'est de sa faute. Il n'y a pas d'autre chose que le gars, il l'a échappé, puis il a dépensé son argent, puis il a acheté un gros yacht. C'est toujours ça que les gens pensent. Hein. Puis la réalité, c'est pas toujours ça aussi. Puis aujourd'hui, on reçoit René Supigère, qui est CPA-CA, qui est CFO externe. Fait que ça, je trouve ça cool parce que on cherche un CFO, mais on veut pas payer le salaire du CFO, dans le sens que on veut pas nécessairement avoir dans une PME, une petite entreprise de 5, 6, 8 employés, puis d'avoir quelqu'un qui va gérer tes stratégies financières du moment où est-ce que tu arrives break-even quasiment à chaque année. Bonjour René, comment ça va?
Salut, bonjour les gars, comment ça va? Ça va très bien, merci.
Yes.
Merci d'avoir accepté notre invitation à la bulle immobilière. Tu savais que c'était notre 6e saison. Tu es notre dernière invitée à notre émission.
C'est un honneur.
Hot seat.
Rien de moins qu'un honneur.
Puis pour vrai, là, ça va finir en feu parce qu'on a beaucoup de contenu à soutirer. Là, puis Kevin puis moi, on est des fans finis de nos invités. On devient toujours...
On groupie. As-tu une page groupie?
Non, malheureusement, j'en crée une juste pour vous autres.
Parfait, merci. Clair.
Puis tu sais... On devient groupie justement nos invités parce que c'est des gens de choix qu'on sélectionne, c'est des gens qui ont des compétences ultra pointues pour pour nous aiguiller un peu mieux dans notre gestion de business. Puis pour vrai, là, on a eu une pré-entrevue ensemble où ce que ça a été le bordel chez nous avec les enfants qui criaient en arrière, etc. Puis crime que j'étais déçu, là, tu sais, parce que, écoute, je voulais tellement retirer du contenu de notre discussion. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on le partage aujourd'hui. Parle-nous un peu, là, de ton expérience. D'où vient tout le contenu au niveau... De ton expertise au niveau financier, mais aussi de nous parler un peu plus tard des facteurs clés d'échec pour les entrepreneurs, parce qu'il y a des facteurs clés qui peuvent être perçus puis qui peuvent être reconnus très rapidement pour réajuster la stratégie pour réussir à amener là, des pistes de solutions.
Exact. Bien, comme tu le disais, Jean-François, moi, je suis CPA, CA, donc les anciens comptables agréés. Puis, j'ai une maîtrise en expertise comptable. Puis, mon expérience, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé en comptabilité, mais la comptabilité pure et dure, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, rapidement, je me suis tourné vers... dans le fond, je travaillais pour un gros cabinet à Québec. Puis, je me suis retourné vers le département de redressement et insolvabilité. Puis, c'est là que j'ai eu la chance de voir plusieurs entreprises qui, malheureusement, avaient des difficultés financières.
Ouais.
Puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que c'est effectivement pas toujours la même... C'est pas toujours les mêmes raisons qui amènent à avoir des difficultés financières. Donc j'ai fait ça pendant presque 3 ans. Puis un jour, j'ai commencé à être un peu maussade devant l'idée de prendre des entreprises. Puis au fond, il y avait toujours des difficultés financières. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que je suis parti. Puis j'ai été directeur financier dans d'autres entreprises pour finalement me partir à mon compte. Puis de venir appliquer finalement. Ce qui semblait pas fonctionner dans les entreprises que j'avais croisées pendant mes 3 ans, puis aussi dans mon expérience de directeur, pour venir aider les petites entreprises, puis les moyennes entreprises qui commencent une croissance à mettre en place des façons de travailler où les finances viennent supporter la croissance, puis surtout ouais. de s'assurer qu'on évite le plus possible là, les facteurs qui pourraient créer des problèmes éventuellement.
Parce que tu avais baigné dans des situations où le monde était...
Exactement.
Le bateau était déjà percé,
oui,
ça commençait à couler.
Le bateau coulait.
Toi, tu vidais avec
les chaudières. Des fois, il était trop tard. Puis si on avait mis en place une meilleure façon de travailler, peut-être au début, mais pas nécessairement une meilleure façon de travailler, on n'aurait peut-être pas pu l'éviter. Mais du moins, on serait arrivé plus rapidement.
On aurait
évité complètement les problèmes. Là.
Mais moi, je crois que pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise immobilière, que ce soit une entreprise opérante, peu importe laquelle, oui, tu as ton comptable. Puis il faut que je t'avoue quelque chose. Là. Moi, je suis un gars qui est ultra non fidèle à mes comptables parce que j'ai l'impression que c'est...
Ça se peut, ça. Ultra non fidèle.
Ah, écoute,
ça a l'air positif, dis-moi.
Non, mais pour vrai, là, j'ai de la difficulté à devenir fidèle avec les comptables parce que je trouve que c'est toujours une question d'interprétation de qui va prendre le dossier puis de comment qu'il va le traiter en arrière. Puis à toutes les fois que j'ai l'impression que je parle à un fiscaliste ou à un nouveau comptable, ben il y a toujours une stratégie supplémentaire que mon comptable mettait pas en application. Puis j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille, tu sais, une année un comptable puis qu'il prenne son contenu, etc. Puis là, que l'autre d'après prennent le même contenu puis ajoutent ses forces pour après ça d'en prendre un autre puis recommencer la chaîne
dream
avec...
Team. Tu veux un dream team de 10 exact. Comptables, mais c'est une question aussi de qu'est-ce que tu t'attends de eux puis à quel point tu es capable de travailler le dossier. C'est sûr que c'est toujours facile. Puis on le voit encore une fois, des fois, dans les postes d'immobilier, tu sais, ah, ton comptable, t'as pas dit ça. Hey, sauve-toi en courant. Veux-tu second-guesser aussi vite que ça? Il y a
exact.
Beaucoup d'éléments, beaucoup d'affaires. Puis...
Exact. C'est important de souvent, le premier comptable qu'on va aller voir, c'est que Quand on a une entreprise au début, ce qu'on a de besoin, c'est celui qui fait nos rapports de taxes, nos rapports d'impôts, notre tenue de livre. Fait que ceux-là, ils ont une expertise en soi. Mais on peut pas nécessairement demander à ces gens-là d'amener la couche de plus qui est celle de la modélisation financière, de regarder le futur, d'analyser des projets. C'est une autre.
La stratégie de ça, là.
Exact. Puis ça prend des gens qui sont pas tout à fait les mêmes tempéraments parce qu'on est dans un tempérament plus business à ce moment-là versus un comptable, on va dire, l'appelons-le Bob Brun, là. J'aime pas ça utiliser ça, mais le comptable Bob Brun qui lui fait juste nos rapports, etc. Là, donc
c'est plus le parallèle, tu disais, avant. Le passé versus exact. Le futur. T'as plus l'œil sur le futur.
Exact. Les finances, on peut les utiliser autant pour regarder le passé comme dans une voiture. T'sais, on regarde dans le rétroviseur. Bon, mais ça, c'est les rapports financiers, les états financiers, puis les rapports de taxes, etc. Mais quand on regarde vers l'avant, on est plus dans le modélisation financière, faire des budgets, regarder des analyses de projets, des analyses de croissance. Là.
Puis, une des choses qu'on va se le dire aussi, là, c'est que, tu sais, je le disais aussi en amont, faut prendre un moment de, oui, avoir un comptable, mais je pense que à différents moments, tu sais, puis je te compte un fait personnel, là, à toutes les premières années que j'ai été en affaires dans l'immobilier, là, où ce que j'avais mes états financiers, là, à toutes les fois que j'allais là, c'était une fois par année, puis je demandais, puis, est-ce que mon entreprise est profitable ou...
j'ai juste une question.
Exact.
Puis, est-ce que c'est profitable ou je me plante? Puis, t'as comment? Ben, c'est mieux que l'année passée. Mais c'est mieux que l'année passée, mais...
Qu'est-ce qui est mieux, là?
Ouais, c'est vers où que je dois m'en aller? Je continue-tu? Est-ce que je m'en vais dans le mur, etc.?
Exact.
Tu sais, j'avais très peu d'indicateurs autres qu'une fois par année pour mes états financiers. Puis, même s'ils m'envoyaient mes états financiers initiaux à tous les mois, ben... Tu comprends rien sur les lignes, tu sais pas qu'est-ce que tu dois vraiment regarder. Puis à part de dire, ben écoute, c'est cool, j'ai payé 125 000 de salaire cette année, je suis vraiment content. Là.
J'ai contribué à l'activité économique.
Ben c'est ça, mais encore, tu sais, puis t'as pas d'indicateur autre. Fait que tu sais, toi, t'es là aussi pour amener une stratégie par rapport à tout ça.
Et vous seriez surpris comment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pataugent encore comme ça, même en ayant des entreprises très profitables. Ouais. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur récemment qui me disait qu'il regardait même pas ses états financiers. Il les regardait pas, lui, il laissait 100% son comptable gérer ça. J'ai dit, tu connais, lui, il regarde le bottom line, ben les profits à la fin de l'année. Puis il dit, OK, c'est beau, mais pendant l'année, il ne regarde pas du tout ce qui, en soi, ça peut ne pas causer de problème, mais c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des habitudes qui peuvent venir créer des
problèmes éventuels. Tant que c'est profitable.
Exactement.
Ouais, mais c'est-tu tant au que le bateau revient. C'est-tu au mieux de la profitabilité, dans le fond? Là, toute la question est là.
Exact.
Ça peut être profitable, mais.
Exact. J'utilise souvent une métaphore qui est celle d'un seau d'eau. Là, toi, tu parles d'un bateau qui coule, qui ressemble à ça. Si on prend un seau d'eau et qu'on le met en dessous d'une champlure de bain, là, tout à coup, en 4 secondes, là, le seau d'eau va déborder. Si je commence à percer 3, 4, 5, 6 trous, le seau va encore déborder. Fait que je me rendrai pas compte là, que mon seau y est percé. Mais à la seconde qu'on ferme le robinet au-dessus,
oups, là, c'est là où. Qu'on diminue le débit. Là.
On diminue le débit, là, tout à coup, OK, c'est quoi qui se passe? Mais là, on est réactif parce qu'on se rend compte qu'il y a des trous. Fait que c'est ça qu'on essaie d'éviter.
Puis en termes de diminution de débit, on l'a vécu
avec la COVID.
C'est exact. Un très bel exemple.
Il y a eu le retail qui a eu les mêmes problèmes. Puis la construction, dans les années de la commission Charbonneau, la construction a connu le même problème. Donc, voilà.
Puis, c'est-tu intéressant comme sujet?
Yes!
Écoute, moi, qu'est-ce que je pense qu'on va faire, là, c'est qu'on va rentrer dans un contenu beaucoup plus large, tu sais, au sens des prochains segments. Fait qu'écoute, c'est une belle mise en place.
Yes.
René Supigère qui vient parler là, des facteurs d'échec pour l'entrepreneuriat. Puis on va revenir tout de suite après la pause, puis on va rentrer dans le détail de comment ça marche. Parfait. Merci d'être avec nous. Restez avec nous à la fin de l'émission. On a nos chroniques avec Copy Management, qui est notre fier commanditaire pour notre saison 6 d'Abulle Immobilière. Oui. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
Ma radio 96,9 FM.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat, que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui, eux aussi, ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 % du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Fan de Battlefield? Passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience? Tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer? Discord.gg/BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada sur console PlayStation et PC. Rejoins une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg/BF Nations. BF Nations, Discord.gg/BF Nations.
Le Le tout premier album du groupe Bastard, A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera te préparer pour tes futurs mosh pits. Maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques.
CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop.
Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et notre invité René Supigère, CPACA, qui vient nous parler des facteurs clés d'échec pour l'entrepreneur. C'est vraiment des points qui sont ultra pertinents. Restez à l'écoute avec nous et surtout, prenez des notes. Prenez des notes parce que moi, je prends des notes.
Ça, comme Jeff.
Puis, on n'est jamais trop connaisseur de nos finances. Puis, d'avoir une personne qui peut être un CFO externe, qui peut nous donner un coup de main dans la gestion financière, puis de nous donner les bonnes stratégies. Parce que, tu sais, c'est beau d'avoir une stratégie, mais à quel moment les appliquer? Ça, c'est un autre point qui est important. Oui. Parce que souvent, il faut faire une analyse de nos cash flows. Puis moi, quand j'ai fait la première fois mon analyse de mes cash flows, j'étais convaincu que j'avais 20 000 de dépenses par mois, qui finalement, je me suis rendu compte que c'était comme 30 000. Puis là, j'étais comme, hop là, c'est pas tout la même affaire. Là.
Oh, ouais, ça fait faire le
une fois et demie.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais tu sais, quand ça s'est arrivé, là, j'ai comme fait, t'es pas là, mais tu sais, moi, je continuais d'investir pareil. Puis là, tu sais, il y a des moments que des fois, que t'es peut-être mieux d'attendre d'avoir le cash flow dans ton compte de banque avant de commencer à faire des investissements. Fait que tu sais, pour moi, d'avoir eu, dès le départ, tu sais, une personne externe qui me donne la stratégie puis le guideline sur quoi utiliser. Puis on parlait des P&L, des Profit and Loss, à savoir c'est quoi tes pourcentages que tu devrais avoir au niveau des ressources, au niveau de ci, au niveau de ça. Puis, tu sais, on entend toujours des règles de pouce qui viennent dire, ben écoute, tu sais, c'est 33% de salaire, 33% de promotion, dépenses opérationnelles, puis 33% de profit. La réalité, là, c'est pas ça dans toutes les entreprises.
Assurément pas. Chaque entreprise puis chaque secteur d'activité a vraiment ses enjeux à lui. Puis ça dépend aussi de la grosseur de l'entreprise. Et clairement, une entreprise de 4 ou 5 employés n'aura pas du tout la même structure financière ou la même structure de coûts qu'une entreprise qui en a 100, 150. Là. C'est, ouais. Ça dépend toujours de où on est rendu puis du marché dans lequel on évolue aussi.
Ça se peut-tu que justement les règles du pouce, on s'en sert pour pas trop des fois se casser la tête puis prendre des raccourcis puis peut-être pas tomber justement dans la ligne financière qu'on devrait faire parce qu'il y a tellement de gens qui balayent ça en
dessous du tapis. Les fameuses règles du pouce, ils servent souvent à se comparer. Fait que la meilleure façon, c'est d'aller voir les autres des entreprises comparables.
De l'industrie, oui,
c'est ça. De l'industrie, vous ressemblez à quoi dans le même secteur d'activité, dans la même grosseur, dans le même stade aussi d'évolution de l'entreprise, puis dire bon, ben, OK, là, si je me situe là-dedans, je pense que je suis correct, puis peut-être que je peux battre ces ratios-là.
Ouais. Hein,
c'est toujours l'objectif là, de venir les battre. Puis, fait qu'effectivement, là, ces ratios-là, souvent, on va les utiliser un peu comme une béquille en disant OK, oui, je vais essayer de viser ça, mais. Le trois quarts du temps, quand j'entends ça, c'est des ratios qui sont impossibles à atteindre et qui ne fit pas du tout avec l'industrie.
Ouais,
donc, chaque entreprise a ses particularités. Puis moi, je suis un gros, gros fan de la modélisation financière, c'est-à-dire que peu importe les ratios qu'on va utiliser, si on est capable de modéliser dans le futur nos flux de trésorerie puis qui marchent, qui fonctionnent puis qui atteignent une rentabilité qu'on désire, ben peu importe si j'atteins pas les ratios du secteur, si moi, je suis à l'aise avec ça, ben mon entreprise est...
Ah, puis ça fait le tour. Puis ça, tu as quand même raison par rapport à ça. Si toi, tu es à l'aise avec ça, parce que tu sais nous, on était dans une activité de croissance où ce que toutes les fois que je parlais avec la direction, etc., était comme, tu sais, Jeff, tu es un malade, là, tu es comme all-in, là, comme tu reçois un dollar, tu en dépenses un et demi, mais tu sais, ça a porté fruit parce qu'on est arrivé avec des excellents résultats. Par contre, moi, ma zone de confort à l'époque était là. Tu sais, je suis là pour croître, je suis là, je suis pas là pour avoir un bénéfice net, tu sais, à la fin de mon année pour faire en sorte que je sois rentable. Je suis là pour devenir rentable puis de me rendre mon entreprise opérationnelle sans que je sois présent dans ma business. Puis le fait d'avoir eu cette stratégie-là dès le départ, ben, a fait en sorte que j'ai été prêt à plusieurs étapes de me fermer les yeux puis de dire, écoute, je sais que je mange de l'argent, mais je fonce.
Ah oui, exact.
Ah, d'être en connaissance de cause.
Définitivement.
Dans le sens que tu savais ce que tu étais en train de faire, c'est toute la différence est là.
Prenons un exemple sur les salaires. Si toi, tu décides que tu donnes des bons salaires à tes employés puis tu les traites bien, ben c'est ton choix. Puis il y en a d'autres qui ne feront pas ça puis qui vont avoir des ratios bien différents. Fait que ça aussi, c'est un autre...
Puis définitivement, puis ça change toute la game aussi. Est-ce que tu vas avoir un taux de roulement vraiment important dans ta business ou tu vas avoir des gens qui ont une zone de confort plus importante dans ta business aussi? Fait que ces points-là sont quand même super importants.
Ouais.
Puis on parle de redressement de crédit, on parle d'histoires d'horreur, des faillites, des propositions, etc. Puis juste avant qu'on donne du concret par rapport à ce contenu-là, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu... le lexique ou le langage, le vocabulaire des différents termes qu'on va utiliser ou c'est quoi les processus d'échec, là, tu sais, t'as une entreprise, t'es plus profitable depuis plusieurs mois, voire années. Là, tu es en situation d'échec. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'autre prochaine étape? C'est quoi la fatale? Là? C'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Là?
Exact. Donc, habituellement, là, les entreprises qui ont des difficultés financières vont habituellement continuer à essayer de s'en sortir par elles-mêmes. Quand ils se rendent compte peut-être qu'ils n'ont pas les outils puis qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils viennent voir des bureaux de comptables ou des bureaux de syndic spécialisés en redressement idéalement. Puis, il y a trois grands types de dossiers qu'on peut avoir. Donc, on a le redressement standard, ça veut dire qu'on a un spécialiste en redressement qui débarque, qui fait des analyses de cash flow, qui regarde un peu la stratégie, qui regarde l'équipe de direction, puis qui va venir un peu faire le lien avec les investisseurs ou les prêteurs potentiels qui vont venir aider à la restructuration. Souvent, ces restructurations-là, on en entend un peu moins parler parce qu'ils se font sans utilisation de la loi, parce qu'on connaît la loi sur la faillite et l'insolvabilité. On en entend souvent parler dans les journaux. Mais c'est, dans le fond, c'est une restructuration qui se fait sans la loi, fait que ça passe souvent sous le radar.
Si c'est réussi, c'est ça. Si c'est
exact, réussi, ça peut passer sous le radar ou ça va finir en disons, on va entendre une boutique, par exemple, je prends n'importe qui, le Château, qui dit, bon, mais on ferme 100 boutiques. Bon, mais ça, c'est une restructuration qui a été faite à l'interne avec une stratégie. Puis à ce moment-là, on vient chercher nos prêteurs puis des nouvelles injections d'argent, excusez-moi. Puis on restructure l'entreprise. Parfois on n'est pas capable de faire ça de manière plus standard parce que les dettes sont trop élevées. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser des leviers légaux, donc la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis qu'on peut faire un redressement financier avec ça. Hein, les plus gros qu'on a entendus récemment, Louis Garneau, Caroline Néron qui a essayé de faire un redressement au début, puis il y a eu le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil n'a pas utilisé la loi sur la faillite et l'insolvabilité, mais... Aujourd'hui, on va rester là-dedans. C'est un redressement avec du légal en arrière.
Ouais. Exact. Puis tu sais, il y a eu toutes les boutiques de retail sûrement aussi.
Exactement. Qu'on entend, les Tristan, les Jacob, etc., là, qui ont eu des redressements financiers. Donc, c'est plus ou moins la même chose, le même concept, sauf que la loi sur la faillite et l'insolvabilité, elle permet d'aller un petit peu plus loin, donc de briser des contrats, puis
de se protéger.
De prendre une entente avec ses créanciers aussi en disant, bon, ben, par exemple, je dois X dollars à tous mes créanciers. Bon, aujourd'hui, je vous donne tel montant pour couvrir les dettes du passé, puis on avance vers le futur. Si les créanciers embarquent, mais on recommence, on a restructuré l'entreprise.
Puis j'ai une question par rapport à ça aussi. On est une personne individuelle personnelle, puis on a notre corporation incorporée, par exemple. Souvent, notre personnel est quand même caution de notre corpo. Est-ce qu'une faillite de notre incorporation peut venir nous entacher personnellement au niveau de notre crédit ou on se lave les mains puis on dit ben c'est pas grave, c'est ma corpo puis
exact. Ben habituellement là, les prêteurs vont tirer sur tout ce qu'ils peuvent là, pour essayer de récupérer leur argent. Donc habituellement si on est caution personnelle, ben on passe avec puis habituellement là, si par exemple l'entreprise arrive en faillite ou autre chose, souvent l'entrepreneur va aussi faire faillite parce qu'il est plus capable au global de payer.
Puis avant d'être là, on entend souvent parler de proposition ou de protection. Tu sais, quand on dit on se met sous la protection, tu peux nous dire grosso modo que c'est
grosso modo ce que ça fait, c'est que ça vient geler les dettes en date de la proposition, en date du dépôt de la proposition. Puis, dans le fond, au début, c'est un avis d'intention de faire une proposition. Puis ensuite, on dépose la proposition. Ça veut dire, je prends tous mes créanciers puis je leur dis, bon, mais écoutez, je vous dois justement.
Arrêtez de me courir après.
C'est ça, je vous dois 1 million, moi, je vous donne 50 000, 100 000. S'il vous plaît, on oublie le passé, fait que je dois plus cet argent-là. Puis là, après ça, ben, pour le futur, voici mon plan de redressement pour continuer à vivre.
Là. Okay. Grosso modo, tu sais, pourquoi ils disent oui dans le sens que
c'est parce que c'est ça ou rien. Parce que les trois quarts du temps, si une proposition refusée va venir
à la faillite.
Exactement.
Puis, par exemple, une proposition, justement, il faudrait... Par exemple, on doit 1 million parce que c'est des chiffres faciles. Là. Yep. On doit 1 million à nos divers créanciers. On donne une proposition d'ajustement, de stratégie qui vont s'en venir pour le futur. Mais nos dettes d'un million, il faut que nos créanciers, puis admettons qu'on ait 10 créanciers à 100 000 piastres chaque, c'est quand même plus facile de comprendre de cette façon-là. Si ces 10 créanciers-là disent oui, parfait, on est prêt à absorber la moitié, 50 cents dans la piastre ou quelque chose comme ça, on est prêt à continuer avec toi. Mais si jamais ils disent... écoute, nous, on est prêt à prendre ton 50 cents dans la pièce, mais on veut pas continuer avec toi, ils ont le droit aussi.
Exactement.
Fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est que ces montants-là sont jamais à la pleine capacité de la dette, dans le sens que si jamais ils doivent 1 million, souvent, on peut se retrouver avec 50, 100 000 ou... 500 000, puis...
Exact, c'est un peu ça le concept, c'est de dire, bon, ben, OK, j'ai accumulé des dettes souvent à cause d'événements X, Y, Z. Bon, ben, voici pour le futur, qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais? Fait que donc, on on vient régler les dettes pour un montant moindre, puis après ça, bon, on regarde vers l'avenir.
Puis, tu sais, les créances ne sont pas tous prioritaires de la même façon. On sait que le gouvernement passe toujours en premier. Puis, tu sais, peut-être pour aller sur l'exemple de Caroline Néron sans tomber trop deep dedans, mais c'est un peu ça qui a fait la tempête dans ce dossier-là, c'est-à-dire que c'était principalement là.
Exact, c'est sûr qu'il y a des priorités dans les dettes, puis il y a des dettes aussi qui
sont à vie.
C'est ça, exact, qu'on ne peut pas non plus.
Parce que les TPS, TVQ, toutes les déductions dues à la source, eux, ils vont-tu prendre 50 cents dans la pièce, le gouvernement? Tu sais, les autres, ils dealent pas avec toi.
Ça se fait? Exact, okay. Oui, ça se fait.
Avec du lobbying.
Exact. Mais c'est sûr que le principe, c'est de ne pas se rendre là, hein, évidemment.
C'est clair.
C'est l'objectif. Puis c'est pour ça aussi que moi, je suis venu essayer
de donner du contenu puis des facteurs clés pour pouvoir ne pas aller là-bas puis d'avoir un moment où ce que tu t'arrêtes puis tu regardes ton bilan puis tu fais comment, écoute, on est-tu sur la track, là? On continue-tu ou on n'est pas dedans, là? Fait que ça, c'est quand même super important. Puis dans un cas où ce que on a un refus, par exemple, des créanciers, pour la proposition, là, on tombe sur la loi de la faillite, c'est ça?
On tombe en faillite parce que habituellement, quand on est là, c'est parce qu'on ne peut plus payer. Puis la faillite, ben, c'est simplement liquidation, là, puis le classique, on ferme l'entreprise, puis on paye tout le monde avec
qu'est-ce qu'il y a dedans. Avec qu'est-ce qu'il y a dedans.
Exactement.
Puis là, tu sais, toutes les choses bien essentielles qui sont non tributaires de la faillite, par exemple, une télévision, c'est-tu vrai, ça? Que la télévision, on peut ne pas rentrer ça dans notre faillite. Là,
ça, c'est dans les faillites personnelles.
OK. Non, mais tu sais, je pose la question parce que j'étais comme voir qu'une télévision, ça devient un bien essentiel. Tu sais, vendez ça,
exact.
Tu sais, je fais comme, voyons donc.
De toute façon, habituellement, il ne reste pas grand-chose là, avec les frais et tout ça. Là, c'est pas,
Il
n'y a jamais personne de
puis quand on parle de syndic ou de bureau de syndic, etc., tu sais, il y a plusieurs annonces radio, il y a plusieurs annonces télé, vous avez des problèmes, etc. Mais tu sais, pour qu'on inculte cette publicité-là, à même les publicités radio, etc., puis qu'on rende ça accessible à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une idée de lâcher prise ou de génération, puis je veux pas dire Nintendo, là, mais tu sais, t'es game over, c'est pas grave, tu sais, j'ai plus de vie, là, pas de continu, on recommence à neuf, etc. Puis je l'ai vécu, moi, pour des faillites personnelles au niveau de clients. Ou ce que eux avaient été propriétaires d'immeubles, souvent, puis en toute franchise, là, souvent c'était des jumelés en bas de 200 000. C'était pas des grosses choses. Mm-hmm. Mais tu sais, ils avaient pris une marge de crédit sur la propriété, ils avaient pris des cartes de crédit, ils avaient pris ça. Il y avait eu un problème financier, ils ont ouvert une hypothèque chez City Financière. Je sais même pas si ça existe encore. Mais c'est des choses que j'ai déjà vues avec eux. Puis que finalement, ils étaient comme, ben écoute, nous, si on vend pas à profit, on fait faillite. Puis là, j'étais comme, crime, mais semble, tu devrais te donner genre un petit coup de pied dans le cul, puis de faire en sorte de payer tes dettes, puis tu sais, de te à ceinture pour un an, puis au pire des cas, là, garde ta carte de crédit, puis assure-toi de faire tes paiements, mais claire tes autres dettes, puis sors-toi de là. Puis j'ai l'impression que les gens baissent les bras super rapidement. Est-ce que, tu sais, ça vient pas justement amener ce message-là, tu sais, à place de dire, écoute, on est là pour t'aider à trouver une stratégie, ben tu sais, si tu veux faire faillite, appelle-nous, puis on va t'aider. T'sais, j'ai plus l'impression que ça donne...
Un redressement un peu réduit, comme tu disais, le premier exemple, c'est plus de remettre sur les rails, c'est de raviver.
Exact, c'est de donner une deuxième chance à ces gens-là qui ont peut-être pris des mauvaises décisions. Maintenant, est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Ça, c'est
leur affaire.
C'est leur affaire à eux.
C'est comme on disait, c'est des cas. Chaque cas est un cas individuel. C'est pas parce qu'ils ont acheté un yacht ou sont partis sur la brosse
Tout le monde a son histoire là-dedans, puis autant du côté des entrepreneurs.
Puis on va se le dire aussi, là, ça se peut que ça soit une situation personnelle qui a amené aussi la déchéance de la business. Tu sais, par exemple, quelqu'un où ce que il y avait une super belle business, ça allait super bien, il était en couple, finalement, sa blonde tombe malade, s'occupe des enfants, s'occupe de la famille, perd le contrôle de la business, il a pas la tête à vouloir se rentrer la tête d'un chiffre, mais finalement, il est plus au niveau personnel, mais pendant ce temps-là, ça chire au niveau entrepreneurial, puis ça arrive, ces situations-là
Ça arrive souvent. Donc ça fait partie des raisons là, qui poussent des fois les gens à aller vers ces options-là.
Puis c'est quoi, René, des facteurs clés d'échec?
Ben en fait, c'est un concept que j'ai amené parce que, tu sais, comme on disait, des livres qui avec les facteurs clés de succès d'une entreprise, on a tous des tablettes remplies de ça. Mais je me disais, rarement on parle des facteurs clés d'échec. Puis ce que j'entends par facteurs clés d'échec, c'est pas nécessairement les facteurs qui vont créer absolument un échec, mais c'est les facteurs qui aident pas en cas d'échec. Donc, comme on parlait tantôt, ben si j'ai un seau avec des trous, ben c'est pas trouver ces trous-là. C'est ça que j'appelle les facteurs clés d'échec. Donc, tant qu'il y a de l'eau en haut, puis il y a des entreprises qui vont réussir à survivre toute leur vie en n'utilisant pas en n'utilisant pas ces outils-là. Mais quand vient un creux de vague ou un problème, mais souvent, c'est là que les problèmes arrivent. Donc les facteurs clés d'échec, c'est un petit concept que j'ai amené pour dire, ben c'est quoi finalement qui crée... Qui peut créer des problèmes.
C'est pas des trucs que tu nous donnes pour faire un échec.
Non, idéalement pas. Idéalement pas, c'est les.
Si vous voulez vous planter, là, tu sais, aller vers là.
Ouais, exact. En fait, c'est plus les éléments que moi, j'ai vu chez des clients puis chez des gens qui semblaient être un peu communs.
Puis tu sais, le parallèle est là sûrement avec les facteurs clés de réussite, dans le sens que c'est juste comme l'envers de la médaille du même principe.
Exactement.
C'est juste d'avoir une gouvernance puis de le voir, là.
Puis. Donc,
puis tu sais, par exemple, dans les mesures des facteurs clés, là, sûrement que c'est une question de connaissances puis de compétences au niveau financier qui doit être genre ultra faible. Tu sais, quelqu'un que le comptable envoie les états financiers, lit des chiffres, fait comme OK, cool, merci.
Puis,
après un an.
C'est le genre de gars qui dit pis.
Ouais, mais c'est ça. Exact. Mais pour vrai, là, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, quand j'ai eu mes états financiers, puis j'étais comme pis. Tu sais, j'ai-tu une bonne année? Moi, j'ai payé tous mes comptes dans l'année, puis j'avais l'impression que j'avais une bonne année, mais tu sais, finalement, la compagnie me devait de l'argent, puis j'étais comme, bon, ben, c'est pas grave, tu sais, la compagnie me doit de l'argent, mais j'ai payé mes affaires.
Exact.
On va finir qu'arriver au bout du compte.
Exact. Moi, j'appelle ça la mesure de performance déficiente. C'est que, on sait pas finalement si notre entreprise est rentable ou pas, ou du moins si elle est pas rentable, c'est où qu'elle est pas rentable. Puis, par exemple, dans le retail, j'ai eu un client, là, il y a longtemps dans une restructuration qui avait une centaine de boutiques. Puis, évidemment, il y a des difficultés financières. Puis, on leur a demandé, ben c'est quoi votre rentabilité par boutique? C'est quoi les boutiques qui font de l'argent ou pas? Puis, c'est quelque chose qui, eux, regardaient pas dans le day-to-day. Donc évidemment, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de monter une rentabilité par boutique. C'est-à-dire, bon, ben voici mes revenus, mes loyers, mes dépenses de salaire. Ouais. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait 30 boutiques qui perdaient de l'argent littéralement à tous les mois. Donc, c'est sûr qu'au moins d'avoir eu cette analyse-là, ça nous a permis de dire, OK, bon, mais on part par où pour restructurer, mais ça va être peut-être de voir ces boutiques-là si on les ferme ou si au moins on renouvelle pas les baux à leur échéance.
C'est comme l'exemple que tu donnais, ça c'est les trous dans le seau. Là.
Exact, donc on avait 30 trous dans le seau, on avait 100 seaux, on avait un seau, il y avait 30 trous dedans. Puis quand est venue la diminution des ventes à cause évidemment de
la pandémie,
les problèmes du retail. Ouais, exact, mais c'était avant la pandémie, mais tous les problèmes du retail, mais évidemment ces boutiques-là sont mis à faire perdre de l'argent au groupe.
Ouais.
Puis eux étaient même pas conscients qu'ils perdaient cet argent-là. Donc
ils ne savaient pas où travailler. Sur
exactement, donc il y avait comme une déficience dans la mesure de leur performance.
Puis tu sais, ça se peut aussi que tu aies des entreprises, par exemple, t'as 100 boutiques. T'en as 30 qui sont moins performantes ou déficitaires, mais t'en as d'autres qui sont plus performantes, exact. Qui viennent absorber cette perte-là.
Ben, c'est ça, 80-20, c'est quasiment le Pareto exactement. Dans l'exemple que exactement. Tu donnes. T'as 20% des boutiques qui doivent te dans tirer 80%.
C'est ça, dans ce cas-ci, tant que ça allait bien, ben, l'entreprise ne s'en rendait pas compte qu'il y avait 30 boutiques qui perdaient de l'argent, tandis qu'on l'a mis en lumière, ça fait « Oh, OK, non, c'est vrai, on doit restructurer de ce côté-là. » Même chose, je parlais avec un entrepreneur qui avait une entreprise de service là, en ingénierie, puis il me dit « Ah, je vais fermer un département au complet. » Puis là, j'ai dit « Mais je comprends pas pourquoi ce département-là, pourquoi il fait moins d'argent que les autres? » Il me dit « On est à perte depuis 3 ans. » Puis j'ai dit « J'ai de la misère à comprendre. Là, j'aimerais ça regarder tes chiffres. » Puis on a analysé un peu ces choses. Puis lui, contrairement à l'autre entreprise, faisait de la comptabilité par activité. Ça veut dire qu'il y avait des départements, puis chacun des départements était évalué. Sauf que je me suis rendu compte en fouillant qu'il y avait des frais qui étaient attribués à ce département-là qui n'avaient pas du tout rapport avec ce département-là ou des frais qui étaient comme faussement attribués à ce département-là qui venaient fausser les résultats. Donc, lui, il était sur le point de prendre une décision.
Il y avait un gars dans un autre département qui était payé à performance.
Exactement.
Puis qui flippait à facture.
Exactement. fait que lui, voyait pas, lui allait prendre une mauvaise décision basée sur une mauvaise information financière. Puis, évidemment, c'était encore une fois, c'était l'équipe de finances qui faisait des reclassements, qui faisait... qui n'était pas tout à fait...
Ben oui. Puis tu sais, dans l'exemple que tu donnes là, ça fait le parallèle avec ce qu'on disait. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne
ou qui
est sa débauche ou qui n'est pas actif ou qui n'est pas impliqué dans sa business.
Non,
c'est juste pas le bon indicateur. C'est mal défriché, c'est mal monté. Puis tu sais, toute la gouvernance. Puis tu sais, dans les exemples que tu donnes aussi, mettons dans l'exemple de boutique juste avant, mais tu dois aussi des fois aller un peu dans l'aspect stratégique de la chose, c'est-à-dire, oui, mettons, vous avez des boutiques moins payantes, mais est-ce que peut-être sont situées à des endroits aussi plus captifs, que vous allez chercher une certaine visibilité qui fait que les autres boutiques, tu te rends dans le stratégique plus loin?
Exactement, c'est sûr que les chiffres en eux-mêmes veulent donner un excellent indicateur de la performance, mais ils veulent pas tout dire non plus. Concept de loss leader, souvent qu'on parle, c'est que des entreprises vont accepter de perdre de l'argent sur un produit, une ligne d'affaires, pour être capable d'aller chercher des clients dans lesquels on va vendre des produits qui sont plus rentables, puis au global, on va être rentable.
Deux entreprises ultra performantes avec ça, il y a Walmart puis Couche-Tard aussi. Là, Il y a plusieurs produits qui sont prêts à vendre à perte parce qu'ils savent que quand la personne met le pied dans son commerce, vont acheter 5 ou 6 produits supplémentaires qui vont payer cette perte-là aussi. Là. Fait que ça, c'est quand même important. Puis il y a tout aussi l'histoire de d'avoir une idée vers où qu'on veut s'en aller, puis d'avoir des KPI importants. Tu sais, t'as-tu un cash flow, t'as-tu un coussin, t'as-tu quelque chose de prévu pour les imprévus, justement? Là?
Beaucoup d'entreprises que je rencontre ou chez qui je vais, on n'a même pas de tableau de bord, on n'a même pas de, tu sais, à part regarder les états financiers mensuellement, n'ont pas d'autres indicateurs sur leur performance puis sur leurs résultats là. Donc puis tu sais, quand je parle d'indicateurs de performance, c'est pas toujours financier, hein, ça peut être plein de sortes d'indicateurs, tu sais, ça peut être le nombre d'employés, le taux de roulement des employés, etc. Donc quand on vient pour faire du pilotage stratégique puis du pilotage d'entreprise, mais c'est important d'avoir une vision claire. Là, tu sais, Louis Garneau l'avait mentionné quand est venu les difficultés financières de Louis Garneau. Il a parlé de son CFO qui était parti, puis il dit pendant un moment, je pilotais dans le noir, j'avais plus idée de comment mon entreprise allait, puis c'était où étaient mes problèmes. Fait que c'est là qu'on voit l'importance là, de piloter avec des informations qui font du sens. Là.
Puis quelqu'un qui peut faire le lien, tu sais, moi je fais le parallèle, mettons, moi je suis allé chez un comptable il y a 7 ans de tout ça parce que j'étais référé comme quelqu'un vraiment spécialisé en immobilier et construction. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne boîte, il est super cher, puis en fin d'année, il va regarder les états financiers, il va m'aligner quelques indicateurs, mais ce que je me suis rendu compte avec ma business de construction dans le passé, c'est que
à un moment donné, trop tard.
Non, c'est pas ça, c'est que tu as des bons puis des moins bons indicateurs puis d'autres corrects. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu départages ton sentiment de OK, c'était une bonne année, c'était une année profitable. Tu sais, il n'y a pas juste un chiffre qui est. C'est pas un ou zéro dans le fond. C'est pas oui ou non. Fait que d'avoir quelqu'un qui guide puis qui dit lui il est moins bon, mais c'est à cause de ça, celui-là il est bon. Fait que
ces indicateurs-là, c'est juste des mesures. T'sais, c'est pas parce que je fais de la fièvre que j'ai un cancer. Mais c'est pas parce que j'ai une boule que j'ai un cancer, mais c'est un indicateur que j'ai peut-être quelque chose de plus. Ouais. Fait que c'est important quand on analyse ces indicateurs-là de se dire bon, ben, c'est quoi qui sous-tend le résultat que je vois là, puis y a-tu quelque chose que je peux faire pour soit l'améliorer ou est-ce que c'est l'indicateur que quelque chose va moins bien dans mon entreprise?
René Spigère, c'est vraiment intéressant. On a encore besoin d'une émission genre de 1h15 là, pour être sûr d'effleurer juste à peine les sujets qu'on veut parler. On est obligé d'aller tout de suite en pause, mais juste avant d'aller en pause, il faut que vous sachiez qu'à la fin de notre émission, on a nos chroniques avec Copy Management et Kevin Pépin. C'est super important. Ils ont commencé à faire la diffusion vidéo aussi des différentes chroniques qu'on avait prises dans le petit studio ici. C'est là que je me dis qu'il aurait fallu que je m'habille un peu mieux, mais c'est une autre affaire. On revient tout de suite après la pause.
Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8-3, mais la meilleure du 4-1-8.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement, c'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout, en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait leur achat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrancoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Rebelle. C'est un spectacle radio, pas de convention, pas d'autorité. Le genre de truc où les gens bien intentionnés sont une grandeur de la liberté. On jase de tout, beaucoup de sexe. C'est le vendredi à midi, check voir ce qui va arriver. Pourtant, c'est la saison des amours, ça va se replacer, là. Vous avez dépassé votre femme, oui, et oui, vos chefs doivent vous faire un bon spectacle aussi d'un petit grand.
Johnny Yuma. Là, les campings, qu'est-ce qui va arriver? Mais les campings, c'est aussi le nudisme. À certains endroits, ça n'a pas marché pantoute. Fait que là, les gens se sont réinventés. Puis là, ils ont commencé à devenir nudistes à la maison à temps plein. Tu sais, t'es à la campagne, ben là, Christy, j'ai jamais pensé à ça. Au lieu d'aller dans un camping, je peux faire ça chez nous. Puis, mais le problème, là, avec le nudisme ou le naturisme, savez-vous, c'est quoi?
Tu moi, peux pas tasser partout.
Tu peux pas tasser, oui.
Le plan, c'est qu'il y a pas de plan. T'écoutes, jamais pareil. Rebelle, on fout le bordel de midi à 14h à CJMD.
Rebel. L'alternative radiophonique.
CJMD 96.9.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage et Kevin Filion. Aujourd'hui, on parle avec René Supigère où ce qu'on parle de CFO externe, c'est un CPA-CA, mais on parle surtout de facteurs clés d'échecs pour l'entrepreneur. Puis juste avant, on a parlé des mesures de la performance qui étaient déficientes, mais dans ça, on parle aussi de croissance mal planifiée parce que c'est difficile de gérer la croissance, René.
Exact. Un autre facteur clé d'échec, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des croissances parce qu'il y a parce que les gens ont cette vision-là, les entrepreneurs ont cette vision-là. Hein, ça vient un peu avec l'esprit d'entrepreneur que de vouloir aller vers la croissance. Puis dans les facteurs clés que j'ai remarqué, c'est que souvent, des entrepreneurs vont avoir pris une business, vont l'avoir parti peut-être de zéro, vont l'avoir bâti pendant 5-10 ans. Puis après ça, ils veulent rentrer dans une phase de croissance. Puis la croissance, ça vient avec énormément de défis. Je pense que là, on n'a pas besoin d'en parler. Mais j'ai constaté que souvent, la mauvaise planification de la croissance peut mener à un échec. Comme par exemple, on était dans une compagnie de construction. La compagnie de construction avait 40 ans d'existence. Le fils venait de reprendre. Puis le fils avait des idées de grandeur pour la compagnie. Il voulait doubler, tripler le chiffre d'affaires. Donc, évidemment, doubler le chiffre d'affaires en construction, ça veut dire avoir plus de contrats, ça veut dire quoi? Acheter de la machinerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire faut que j'aille un stationnement pour ma machinerie, faut que j'aille un plus gros garage. Donc, en dedans de 2 ans, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des camions, il a acheté des grues, il s'est construit un nouveau siège social, il s'est acheté un gros terrain. Puis là, après ça, il y avait beaucoup trop d'employés. Fait qu'il a été obligé de se mettre une structure au-dessus. Donc, du jour au lendemain, il y avait trois nouveaux directeurs. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il a signé un mauvais contrat. Pas 10, pas 15, juste un qui contrat mal évalué. Ce qui est arrivé en dedans d'un an, la business est tombée complètement. Donc, c'était une business de 40 ans. Puis, parce qu'on avait mal planifié, c'est-à-dire qu'on commence tranquillement la croissance, on modélise le futur, on se dit, bon, mais c'est quoi la stratégie qui va venir derrière cette croissance-là? Ben, parce qu'il n'avait pas fait ça, malheureusement, sa business, on l'a littéralement liquidé. Donc, on a tout vendu, ses beaux camions, puis on est passé à autre chose.
Avec la fin, ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est dans l'esprit entrepreneurial de saisir les opportunités, de vouloir croire, surtout si tu es jeune, que tu reprends le flambeau, que tu as goût, mettre les lunettes roses, c'est voir ça. Les opportunités, mais aussi voir les risques.
Exact, puis ça fait partie de l'instinct d'entrepreneur, donc il faut garder ces lunettes roses.
Oui, c'est ça.
Mais il faut qu'on s'assure finalement que le plan fonctionne. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est de dire, moi, je suis pas là pour te dire non, mais je suis là pour te dire pourquoi.
Peut-être.
Donc, c'est ça. Mais René, on va faire ça. OK, mais encore. Avec le...
ouais. Une des choses vraiment importantes, je pense, c'est attache-toi avant de sauter. Là.
Ouais. Exact.
T'sais, juste pour être sûr là, que tu as un petit rebond à la fin avant de tomber en pleine face.
Puis ça me fait penser au parallèle de notre fameux Claude qui nous réunit les trois ici, qui disait, tu sais, c'est super cool l'analogie de dire, tu sais, un entrepreneur, c'est un gars qui saute en parachute, qui fait son parachute en chemin. qui va embarquer avec un gars qui fait ça? Je veux dire, qui comme partenaire financier, comme investisseur, comme structure autour, dit « Hey, cool, toi, tu tires puis tu vas tout faire ça en chemin, tu vas te démarrer. »
Moi aussi, il faut que je saute, là, c'est ça.
T'sais, j'embarque en ligne dans ton projet.
Moi, je m'accroche après toi, puis c'est toi qui fais le parachute.
Exact. Exactement. J'ai fait des clins d'œil aux deux filles avec nous, là, parce qu'eux autres aussi là, sont en train de broder avec nous. Là.
Ils font le parachute.
Exact. Puis le principe ici, c'est pas de dire hey, « on le fait pas parce que c'est trop risqué », mais c'est vraiment venir mettre notre environnement puis dire « OK, c'est quoi les risques ?» Moi, souvent, je vais dire « OK, mon parfait, voici ton projet. Je regarde les investissements que ça va prendre, etc. » Puis on se modélise ça. Donc, on va dire « OK, parfait, tu penses que tes ventes vont grossir. C'est quoi ta croissance de vente? C'est quoi ta croissance en investissement? » Puis là, on modélise ça pour les deux, trois prochaines années. Puis après ça, on vient se mettre des facteurs. Fait qu'on dit « Bon, mais si finalement, là, toi, tu dis qu'on fait 15 % de croissance, 20 % 30 % si on est à 10, qu'est-ce qui va se passer? Hey, OK, on a une mauvaise année. Qu'est-ce qu'on fait si on a cette mauvaise année-là? » Juste de réfléchir en avance, de dire « Bon, mais parfait, on analyse des scénarios. » Pour moi, on est conscient que si jamais on a des petits problèmes, des cailloux là, qui sont sur le chemin, ben on va être capable de se relever.
Tu sais de suite vers quelle voie aller, tu sais, dans le sens où tu y as pensé, tu sais que, OK, ça, c'est ce qu'on avait évalué qui pouvait arriver. Ben, go, on prend la sortie à gauche, puis on est prêt tout de suite, là. Puis, tu sais, un CFO, dans le fond, c'est pas un tueur de projet, là.
Absolument
pas quelqu'un
pas,
qui est là, puis dit, regarde, en fait, c'est cool ton idée, ben non, mais il y a ça, fait que, étouffe ça.
Exact, c'est ça que j'ai
fait. Il veut assurer une croissance, exact. Là. Fait que, tu sais, si tu veux assurer une croissance et que tu dis, écoute, voici le risque que tu prends, voici vers où on s'en va, voici les facteurs clés qu'il va falloir prendre en considération dans notre expansion, dans notre croissance, exact. Pour faire en sorte que si on n'atteint pas ces chiffres-là, ben il va peut-être falloir revoir la stratégie, mais pas à la fin, mais qu'on se plante le nez sur le mur, mais peut-être, genre, à ce moment-ci de l'année, il va falloir qu'on se rassoie ensemble puis on réévalue si on est dedans ou on n'est pas dedans.
Exact, j'ai un client récemment, il y avait un gros risque que j'ai vu, puis il allait très, très, très bien. Là. Mais j'ai dit, ben ce risque-là existe quand même. Puis le but, c'est pas de changer à business. Là. C'est juste de dire, bon, mais OK, si on perd un gros client, on a vraiment des années de misère qui s'en viennent devant nous. Fait que ce que j'ai dit, là, on a une belle position. On va aller voir tout de suite des prêteurs. On va dire, regarde, écoutez, moi, je voudrais ouvrir une ligne de crédit que je pense pas utiliser, mais qu'on garde en sûreté. Puis comme de fait, j'ai fait ça 6 mois avant le COVID. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Quand le COVID est arrivé, on avait déjà notre ligne de crédit ouverte. On avait déjà tous nos ratios qui étaient beaux. On a pu tirer dessus, puis automatiquement, on a sécurisé. On avait prévu un coup dur, que ce coup dur-là, finalement, est arrivé. On ne pouvait pas vraiment.
Celui-là,
on ne l'avait pas prévu, non, malheureusement. Mais au moins, ça a permis de continuer. Fait que c'est un peu ça qui est ma tâche. Puis souvent, mes clients vont avoir un peu ils vont souvent penser que le comptable, c'est quelqu'un, justement, qui fait du crayon, puis qui donne des offres financières, puis qui dit non. Ah non, ça c'est trop cher. Ouais, mais j'essaie de changer ça en disant mon but, c'est pas de te dire non, puis de dire c'est trop cher, c'est as-tu pensé à ça? Ouais. Comment qu'on va faire ça? C'est quoi les stratégies?
C'est correct si tu y vas, là. Par contre, là, prends en compte ça. Puis à ce moment-là, il faut que tu fasses une auto-évaluation pour voir qu'est-ce qu'il y en a.
Exactement.
Une des choses que j'ai présentées ce matin dans notre rencontre d'équipe, on a une rencontre d'équipe à tous les matins à 8h30 pour jaser de nos wins, nos trucs qui vont bien, exactement, etc. Puis une des choses que j'ai faites ce matin qui m'a donné confiance, c'était de faire mon tableau annuel sur c'est quoi mon objectif annuel, puis biannuel, puis trimestriel, puis par mois. On l'a pour vrai là, sur un chiffrier Excel. Par contre, je me l'ai fait sur un tableau pour la maison, affiché sur le mur, puis de le voir du day-to-day. Puis c'est quoi mes objectifs de ma semaine pour atteindre, tu sais, mon mois, pour atteindre mon trimestre, pour atteindre mon biannuel, etc., etc. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que Marie-Ève, qui travaille avec nous, c'est une fille qui est très cartésienne aussi, fait qu'elle ramène toujours Jeff. Elle dit, ouais, mais tu sais, notre objectif du mois, c'était ça, mais plus 6 % du mois passé qu'on n'a pas fait. Fait que là, je fais comme, t'as raison. Fait que là, je fais comme, ouais, c'est ça.
On est à 9.
C'est exactement ça que je fais. J'ai comme, shit. Puis là, je rajoute mon chiffre. mais ça fait
pas balayer ça en dessous du tapis.
Non, mais en toute franchise, tu sais, on est obligé de se confronter à la réalité. Puis, tu sais, je suis pas dupe non plus. Je me fais confronter sur, on n'a pas été performant, genre, le mois passé. Mais là, maintenant, il faut arriver à être performant. C'est ça qu'il faut faire. Puis à tous les vendredis, on se rassoit pour voir, est-ce que toi, tes objectifs de la semaine ont été réalisés? Est-ce que moi, mes objectifs de la semaine ont été réalisés? Oui. Puis est-ce qu'on est encore en ligne sur les objectifs du mois pour arriver au trimestre, pour arriver à toute la patente?
Exact.
Fait que, tu sais, le fait d'être focus là-dessus nous amène à être beaucoup plus performants.
Ça permet de mesurer sa croissance puis de s'assurer qu'on la pilote puis qu'on la suit comme il faut au day-to-day.
C'est le commitment de ça, là.
Puis, mais, ouais, c'est ça. Sauf que là, tu sais, en mettant un rendez-vous avec quelqu'un d'autre à l'externe qui, elle, est prête à me donner les chiffres, j'ai d'affaire à être prêt à dire que je l'ai faite, là. Je peux pas. Tu sais, si j'ai une nuit blanche à passer, c'est souvent souvent le jeudi soir au vendredi là, pour être sûr d'être à l'ordre puis d'être comme
pas,
faut
pas
là.
Pour les mêmes raisons d'il y a quelques années là. Non, c'est non, vraiment non. Pour travailler là,
pour travailler non, non, les quelques années là, c'est plus que 10 ans là, parce que les
un siècle
ouais c'est ça, parce que ça fait longtemps de tabarnache que je travaille les nuits pour être sûr que j'arrive à mes affaires. Mais puis comment qu'on peut appliquer tout ça à l'immobilier, parce que tu sais on connaît les ventes, là. T'sais, on a 12 logements à 1000 pièces par mois, on sait qu'à la fin de l'année là, il va rentrer 12 000 pièces par mois, il va rentrer 144 000 pièces, c'est sûr qu'on le sait que c'est comme ça que ça va se passer.
Exact, mais souvent on va s'arrêter là. Souvent on va s'arrêter à dire bon mais je connais mes revenus. Puis j'ai une idée de mes dépenses. Sauf que, comme on sait, dans l'immobilier, le secret, le nerf de la guerre, c'est le cash flow toujours. Hein. Fait que si on, dans le fond, si on prend les grandes idées de la modélisation financière, c'est-à-dire de regarder le futur devant nous, ben premièrement, on n'est pas obligé. Tout d'abord, là, moi, on n'est pas. Le petit investisseur peut lui aussi utiliser ces concepts-là. Là. C'est pas. Ouais.
T'sais, 25 sans logement, là, c'est bon pour ceux-là qui en a 4. Là.
Exact. Ben, ouais. C'est ça, exact. Il est peut-être pas obligé de le suivre à tous les mois. À ce moment-là, peut-être qu'il peut le suivre aux 6 mois. Mais depuis tantôt, on parle d'entreprise et d'affaires de plusieurs millions, mais c'est absolument pas ça. Je pense que dans la vie de tous les jours, il faut appliquer ces idées-là. Donc, moi, pour mes propres logements, je connais évidemment mes revenus puis mes dépenses mensuelles. Donc, je me fais un cash flow mensuel. Puis, évidemment, dans ce cash flow-là, on va venir mettre nos investissements futurs. Donc, si j'ai des rénovations, etc. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment venir mettre temporellement nos sorties puis nos entrées de fonds. Ça, souvent, là, ça peut être un enjeu qu'on a, puis c'est la première chose là, qui peut nous affecter. C'est-à-dire, bon, OK, là, j'ai un prêt, avec là, j'ai ici, j'ai ça, OK, c'est quand je vais le débourser, mes factures, nanana. Fait que là, on vient mettre ça sur l'échelle, puis on vient faire ça dans un fichier Excel, là, pas obligé d'avoir une grosse affaire non plus.
On peut faire une grosse affaire sur des fichiers Excel, là, je te le dis tout de suite.
Ah, oui, tu peux lancer une fusée avec Excel.
Ben oui, exact. Je pense que oui.
Tu me diras si tu vois ça comme ça, mais je trouve qu'il y a deux situations un peu dans l'investissement immobilier. Tu sais, quand ton immeuble est stabilisé, mettons que c'est une balade dans le parc, là, long fleuve tranquille, tu as déjà des ratios financiers à la banque qui fait que tu sais que tu vas arriver avec une certaine profitabilité minimum par année. Fait que ça, c'est correct, mais. Je trouve que là où peut-être le bas blesse ou plusieurs investisseurs soit regardent pas ou s'en fâchent ou foncent dans le mur, c'est toute la partie optimisation et on dit CAPEX, là, ou grosses dépenses à venir.
Parfait.
Fait que grosses dépenses à venir.
Exactement.
Quel conseil tu pourrais dire à des gens qui se lancent justement dans une optimisation, qui ont un immeuble vide, qui veulent rénover?
Premièrement, là, dans les optimisations, moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que souvent les gens vont avoir tendance à. Parce qu'au début de l'optimisation, on va dire OK, ben, mais je vais augmenter mes loyers de temps, je vais avoir tant de dépenses, puis on part avec un scénario. Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est de se faire plusieurs scénarios. Puis de se dire, bon, mais finalement, si je surévalue un petit peu mes revenus, puis je sous-évalue un peu mes dépenses, est-ce que j'arrive quand même? Fait que c'est de se faire des scénarios optimistes, pessimistes, puis de se dire, OK, mon projet, est-ce qu'il se tient en lui-même? Puis par la suite, mais c'est sûr que dans un projet d'optimisation, là, on a beaucoup plus d'entrées et de sorties de fonds qui vont être atypiques. Là. On n'est plus dans du j'ai un loyer X qui rentre à tel mois, puis j'ai des dépenses mensuelles.
Peut-être plus de loyer, en fait.
C'est ça, exactement. Ouais. Parce que quand tu dis quand la business ça roule, j'ai des dépenses mensuelles, des revenus mensuels, là, c'est assez facile à suivre, je te le concède. Mais dans une optimisation, ben là, je vais avoir des entrepreneurs à payer, je vais avoir
délais fonds, à respecter
des
aussi.
Des fonds
là.
Élevés, ouais. Des délais. Moi, j'ai des gens qui s'en viennent. Si j'ai des retards, comment je fais? Ça va me coûter plus cher, etc. Donc, c'est important là, de suivre ça. Puis sinon, dans le day-to-day aussi, moi, les indicateurs que je suggère, ben, c'est d'avoir de se faire un petit indicateur. Ben, c'est quoi notre valeur nette? C'est quoi nos emprunts? C'est quoi mon capital immobilisé que j'ai dans le day-to-day? Fait qu'on se crée un petit fichier Excel, là, comme je disais aussi, on se parlait.
Un genre de bilan.
Exactement. T'sais, la rotation des locataires, ça peut être vraiment un concept super intéressant aussi à suivre. Donc, on se fait un petit fichier Excel, puis on vient changer nos chiffres, puis on les suit de mois en mois, puis on regarde à peu près à quoi ça ressemble ma business, puis est-ce que je commence, par exemple, à être un petit peu trop endetté? Tu sais, à quoi ressemblent mes ratios? C'est sûr que, comme on dit, si j'ai un quadruplex, là, ça se peut que ce soit pas super pertinent mois sur mois, mais au moins de garder en tête que c'est important de modéliser ses entrées et ses sorties de fonds. Puis c'est souvent là que ça va devenir complexe en immobilier.
Ben, puis tu disais en exemple que toi, tu arrivais quand les business avaient des gros projets. Exactement. Je disais, c'est un peu ça dans l'immobilier. Si tu dis, regarde, je vide mon 12 logements, je les rénove les 12, puis je vais les relouer dans à peu près 8-10 mois à tel prix, ben là, oui, il y a une analyse de à combien je vais louer, je vais-tu être en dessous, au-dessus, au niveau des dépenses et tout, mais aussi toutes les dépenses en cours de route.
Exact.
J'ai besoin d'aller chercher une marge de crédit pour les absorber.
Exactement. Puis la marge de crédit, c'est pas tant d'aller la chercher une fois que je suis rendu avec mes besoins. moins.
Mais non,
c'est quand on arrive au début.
C'est quand tu as de l'argent qu'il faut que tu demandes.
Voici mon projet, voici comment ça va. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'entreprise, qu'on était allé chercher une marge quand ça allait bien, puis quand le COVID est arrivé, on l'avait déjà. Ben, c'est de prévoir un peu quand même ses besoins de fonds-là éventuels. Là. Fait que c'est clair que la banque, elle aime pas ça d'arriver avec quelqu'un et dire attends, là
t'es normalement, t'as besoin de.
Tu viens de te rendre compte que t'as un paiement dans deux semaines, puis tu veux qu'on augmente ta marge, là, c'est sûr que ça fait peur.
Mais tu vois, là, moi, ça a été une des expériences que j'ai vécues. Puis, tu sais, je suis un gars qui est ultra transparent. Là. Dans l'entrepreneuriat, je connaissais pas ça. Je suis arrivé là-dedans, puis advienne que pourra. Puis, j'ai appris beaucoup au fil des années, avec des essais, avec des erreurs, avec des mauvaises personnes, des bonnes personnes, etc. Mais, tu sais, une des choses que j'ai faites, c'est que dans ma troisième année que je suis arrivé comme courtier immobilier, où ce que ma business commençait à rouler, où ce que j'ai comme fait, écoute, mon but est d'aller all-in, là, fait que je me mets une marge de crédit, là, puis je fonce au fond mon Léon. Puis le gars, il m'a dit à la banque, ben, il dit, écoute, j'ai pas de problème, je vais te prêter de l'argent, mais que t'as de l'argent dans ton compte de banque. J'ai comme, ça a pas tombé dans une oreille d'un saut. J'ai comme fait, ben, écoute, la prochaine fois, je vais faire une demande de crédit, là, tu peux être sûr en tabarnache qu'il va y avoir de l'argent dans mon compte de banque, là. Parce c'est que ça, c'est pas vrai que je vais me refaire dire ça une deuxième fois, là.
Exact.
Fait que, tu sais, là, quand la personne me dit ça, là, j'ai comme fait, hop, à l'aille.
Ah oui.
Il a raison. Ben, fait
tu comprends comment il marche de son bord aussi à ce moment-là.
Ben oui, mais tu sais, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais 30 ans, aucune expérience dans l'investissement puis des trucs comme ça. Ouais. Je peux voir une compagnie puis je me dis, bon, ben je vais être bon. Hein?
Ouais. Ils c'est vont comme, m'aider.
Ouais, tu sais, ça va bien aller. Ouais. Yes, mais la réalité n'est pas là. Fait que tu sais, c'est important, moi, je trouve, que d'essayer d'outiller. Puis trop souvent, là, on se lance dans le vide à dire, écoute, advienne que pourra, puis tu sais, on fait du mieux qu'on peut. C'est important de faire du mieux qu'on peut, là, mais crime, plus que tu as des meilleurs outils, plus que tu as des personnes compétentes autour de toi, plus que tu as un propulseur là, pour faire exploser ta business vraiment à d'autres niveaux. Là.
Puis pour commencer, je pense que ça prend ça pareil. Parce que si on regarde toutes les raisons que quelque chose qu'un projet entrepreneurial ne fonctionnera pas, il y a personne qui se lancera dans l'entrepreneuriat. Il faut être un peu fou quand on se lance. Mais comme je disais, je pense que c'est au travers de ça, c'est de commencer à développer des bonnes habitudes. Puis quand on arrive à un autre niveau, moi, mes clients, souvent, ça fait 10 ans, ils ont 25, 30 employés, puis là, ils veulent tomber à 75, 100, puis là, ils ont un projet de croissance. Puis on n'est plus juste au feeling, là, c'est plus juste l'instinct, là, tu sais, c'est fou.
T'as valeur ajoutée.
Puis Kevin, il disait, là, on est beaucoup dans le feeling, là. Exact. Hein, mais je pense que ça va bien aller. Ben, oui. Je pense que c'est correct. Je pense que c'est bon. Puis, tu sais, après 12 mois, à ton état financier, tu te dis quoi, Kevin?
Puis?
Écoute, René, c'est vraiment super intéressant. On est déjà à la fin de nos segments. Si jamais on veut avoir plus d'informations, là, où on aimerait discuter avec toi de nos divers projets, où on aimerait te contracter ou sous-contracter pour devenir notre CFO de notre business.
Exact.
De quelle façon qu'on peut faire ça?
LinkedIn, je pense que c'est la meilleure façon. Mon nom de famille est un peu spécial, mais j'imagine qu'il va être dans le nom du podcast. Donc, juste me contacter sur LinkedIn, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Puis j'aime beaucoup. Moi, je suis un passionné là, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, n'ayez pas peur de me poser des questions et tout ça. Là,
et en même temps, ça vous, c'est un spécialiste. Fait que t'en as vu de toutes les sortes.
Exact, exact.
La construction. Ben oui, exact.
Du retail, la construction, de l'agriculture. J'en ai fait.
Puis tu peux amener l'input de l'autre industrie exactement, dans celle du client exactement. En question. Là.
Puis j'en ai vu des entreprises qui ont réussi beaucoup, beaucoup aussi. Il ne faut pas penser que j'ai juste vu des entreprises qui n'ont pas réussi. Mes clients, présentement, les clients que j'ai, c'est toutes des entreprises qui fonctionnent excessivement bien. Donc je commence à...
Mais justement, ces entreprises-là réussissent bien parce que
t'es là.
Ben,
parce que
j'ose espérer.
Assurément que c'est ça et certain. Comme on disait, on est les pires fans finis de nos invités. Ça. Fait que c'est
les fleurs. Là.
C'est sûr que tu vas avoir un appel de Marie-Ève puis moi pour dire, écoute, on te cédule une journée, voici nos bilans, voici nos états, voici vers où qu'on s'en va. Puis
René.
Ouais. Puis René, on est de sa bonne ligne. C'est quoi la stratégie? Manquez pas les chroniques avec Copy Management, avec Kevin Pépin, tout de suite après la pause. Puis pour ceux qui disaient, je sais pas comment ça s'écrit, Supigère, ben c'est Suppiger, juste pour être sûr que c'est correct. Merci tout le monde d'avoir été présent. Passez un bel après-midi. Tout de suite après la pause, c'est... Zone parallèle.
CJMD 96.9.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
La Salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne.
Des t-shirts, des hoodies, des crewnecks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patios, revêtements extérieurs, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
Hey, bonne nouvelle, la gang. Les entreprises Vapking sont maintenant réouvertes. Oui, oui, vous pouvez aller voir la gang de Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Allez donc voir mes amis de chez Vapking, parce qu'ils se sont bien ennuyés de vous autres.
Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Rainfray Volkswagen Lévis.
Oui!
0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois.
Oui!
1 000 $ de rabais supplémentaires.
Rainfray Volkswagen Lévis vous dit oui.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pourquoi?
J'ai pris le vaccin Danse.
Le vaccin Danse? Trop bonne idée!
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Le meilleur groupe punk au monde, Super Punk, sort leur tout premier projet, King Kong Goes to Cégep.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.